Bouvard et Pécuchet, historien du duc d'Angoulême. Bouvard s'était assis. Pécuchet marchait de long en large dans le musée. Quand le pot-à-beurre frappa ses yeux et s'arrêtant tout à coup, « Si nous écrivions la vie du duc d'Angoulême ?»«
Mais c'était un imbécile !» répliqua Bouvard.
« Qu'importe, les personnages du second plan ont parfois une influence énorme, et celui-là peut-être tenait le rouage des affaires. Les livres leur donneraient des renseignements, et M. de Faverges en possédait sans doute, par lui-même ou par de vieux gentilshommes de ses amis. » Ils méditèrent ce projet, le débattirent, et résolurent enfin de passer 15 jours à la bibliothèque municipale de Caen pour y faire des recherches. Le bibliothécaire mit à leur disposition des histoires générales et des brochures, avec une lithographie coloriée représentant de 3/4 Monseigneur le duc d'Angoulême. Le drap bleu de son habit d'uniforme disparaissait sous les épaulettes, les crachats et le grand cordon rouge de la Légion d'honneur. Un collet extrêmement haut enfermait son long cou. Sa tête piriforme était encadrée par les frisons de sa chevelure et de ses minces favoris, et de lourdes paupières. Un nez très fort et de grosses lèvres donnait à sa figure une expression de bonté insignifiante. Quand ils eurent pris des notes, ils rédigèrent un programme. Naissance et enfance peu curieuse. Un de ses gouverneurs est l'abbé Guéné, l'ennemi de Voltaire. À Turin, on lui fait fondre un canon et il étudie les campagnes de Charles VIII. Aussi est-il nommé, malgré sa jeunesse, colonel d'un régiment de garde noble. 97, son mariage. 1814, les Anglais s'emparent de Bordeaux, il accourt derrière eux et montre sa personne aux habitants. Description de la personne du prince. 1815, Bonaparte le surprend. Tout de suite, il appelle le roi d'Espagne et Toulon, sans Masséna, était livré à l'Angleterre. Opération dans le Midi, il est battu, mais relâché sous la promesse de rendre les diamants de la couronne emportés au grand galop par le roi, son oncle. Après les 100 jours, il revient avec ses parents et vit tranquille. Plusieurs années s'écoulent. Guerre d'Espagne. Dès qu'il a franchi les Pyrénées, la victoire suit partout le petit-fils de Henri IV. Il enlève le Trocadéro, atteint les colonnes d'Hercule, écrase les factions, embrasse Ferdinand et s'en retourne. Arc de triomphe, fleurs que présentent les jeunes filles, dîner dans les préfectures, tédéum dans les cathédrales, les Parisiens sont au comble de l'ivresse, la ville lui offre un banquet. On chante sur les théâtres des allusions aux héros. L'enthousiasme diminue car en 1827, à Cherbourg, un bal organisé par souscription rate. Comme il est grand amiral de France, il inspecte la flotte qui va partir pour Alger. Juillet 1830, Marmont lui apprend l'état des affaires. Alors il entre dans une telle fureur qu'il se blesse la main à l'épée du général. Le roi lui confie le commandement de toutes les forces. Il rencontre, au bois de Boulogne, des détachements de la ligne et ne trouve pas un seul mot à leur dire. De Saint-Cloud, il vole au pont de Sèvres. Froideur des troupes. Ça ne l'ébranle pas. La famille royale quitte Trianon, il s'assoit au pied d'un chêne, déploie une carte, médite, remonte à cheval, passe devant Saint-Cyr et envoie aux élèves des paroles d'espérance. À Rambouillet, les gardes du corps font leurs adieux. Il s'embarque et pendant toute la traversée est malade. Fin de sa carrière. On doit y relever l'importance qu'eurent les ponts. D'abord, il s'expose inutilement sur le pont de Lignes. Il enlève le pont Saint-Esprit et le pont de l'Oriol. À Lyon, les deux ponts lui sont funestes et sa fortune expire devant le pont de Sèvres. Tableau de ses vertus, inutile de vanter son courage auquel il joignait une grande politique, car il offrit 60 francs à chaque soldat pour abandonner l'empereur et en Espagne, il tâcha de corrompre à prix d'argent les constitutionnels. Sa réserve était si profonde qu'il consentit au mariage projeté entre son père et la reine d'Étrurie, à la formation d'un cabinet nouveau après les ordonnances, à l'abdication en faveur de Chambord, à tout ce que l'on voulait. La fermeté pourtant ne lui manquait pas. À Angers, il cassa l'infanterie de la garde nationale, qui, jalouse de la cavalerie et au moyen d'une manœuvre, était parvenue à lui faire escorte tellement que son Altesse se trouva prise dans les fantassins en avoir les genoux comprimés. Mais il blâma la cavalerie, cause du désordre, et pardonna à l'infanterie. Véritable jugement de Salomon. Sa piété se signala par de nombreuses dévotions, et sa clémence en obtenant la grâce du général de Belle, qui avait porté les armes contre lui. Détails intimes, traits du prince. Au château de Beauregard, dans son enfance, il prit plaisir avec son frère à creuser une pièce d'eau que l'on voit encore. Une fois, il visita la caserne des chasseurs, demanda un verre de vin et le but à la santé du roi. Tout en se promenant, pour marquer le pas, il se répétait à lui-même « une, deux, une, deux, une, deux ». On a conservé quelques-uns de ces mots à une députation de Bordelais. « Ce qui me console de n'être pas à Bordeaux, c'est de me trouver au milieu de vous. » Aux protestants de Nîmes, « Je suis bon catholique, mais je n'oublierai jamais que le plus illustre de mes ancêtres fut protestant. » Aux élèves de Saint-Cyr, quand tout est perdu, « Bien, mes amis, les nouvelles sont bonnes, ça va bien, très bien. » Après l'abdication de Charles X, « Ce qu'ils ne veulent pas de moi, qu'ils s'arrangent. » Et en 1814, à tout propos, dans le moindre village, « Plus de guerre, plus de conscription, plus de droits réunis. » Son style valait sa parole. Ses proclamations dépassent tout. La première du comte d'Artois débutait ainsi. « Français, le frère de votre roi est arrivé. Celle du prince, j'arrive. Je suis le fils de vos rois, vous êtes français. » Ordre du jour daté de Bayonne. « Soldat, j'arrive. » Une autre en pleine défection. « Continuez à soutenir avec la vigueur qui convient aux soldats français la lutte que vous avez commencée. La France l'attend de vous. » Dernière à Rambouillet. « Le roi est entré en arrangement avec le gouvernement établi à Paris. Et tout porte à croire que cet arrangement est sur le point d'être conclu. Tout porte à croire. Était-ce sublime ?»« Une chose me chiffonne, dit Bouvard, c'est que on ne mentionne pas ces affaires de cœur. » Et ils notèrent en marge, cherchaient les amours du prince. Au moment de partir, le bibliothécaire se ravisant leur fit voir un autre portrait du duc d'Angoulême. Sur celui-là, il était en colonel de cuirassier, de profil, l'œil encore plus petit, la bouche ouverte, avec des cheveux plats, voltigeants. Comment concilier les deux portraits ? Avait-il les cheveux plats ou bien crépus ? À moins qu'il ne poussât la coquetterie, jusqu'à se faire friser ? Question grave, suivant Pécuchet, car la chevelure donne le tempérament, et le tempérament l'individu. Bouvard pensait qu'on ne sait rien d'un homme, tant qu'on ignore ses passions, et pour éclaircir ces deux points, ils se présentèrent au château de Faverge. Le comte n'y était pas. Cela retardait leur ouvrage. Ils rentrèrent chez eux, vexés. La porte de la maison était grande ouverte, personne dans la cuisine. Ils montèrent l'escalier, et que virent-ils au milieu de la chambre de Bouvard ? Madame Bordin, qui regardait de droite et de gauche. « Excusez-moi, dit-elle en s'efforçant de rire, depuis une heure je cherche votre cuisinière, dont j'aurai besoin pour mes confitures. » Ils la trouvèrent dans le bûcher sur une chaise, et dormant profondément. On la secoua, elle ouvrit les yeux. « Qu'est-ce encore ? « Vous êtes toujours à me diguer avec vos questions ?» Il était clair qu'en leur absence, Madame Bordin lui en faisait. Germaine sortit de sa torpeur et déclara une indigestion. « Je reste pour vous soigner, » dit la veuve. Alors ils aperçurent dans la cour un grand bonnet dont les barbes s'agitaient. C'était Madame Castillon, la fermière, elle cria « Gorju! Gorju !» Et du grenier, la voix de leur petite bonne répondit hautement « Il n'est pas là !» Elle descendit au bout de 5 minutes, les pommettes rouges en émoi. Bouvard et Pécuchet lui reprochèrent sa lenteur. Elle déboucla leur guêtre sans murmurer. Ensuite, ils allèrent voir le bahut. Ses morceaux épars jonchaient le fournil. Les sculptures étaient endommagées, les battants rompus. À ce spectacle, devant cette déception nouvelle, Bouvard retint ses pleurs et Pécuchet en avait un tremblement. Gorju, se montrant presque aussitôt, exposa le fait. Il venait de mettre le bahut dehors pour le vernir quand une vache errante l'avait jeté par terre.
« À qui la vache ?» dit Pécuchet.
« Je ne sais pas. »«
Et vous aviez laissé la porte ouverte comme tout à l'heure, mais c'est de votre faute. »
Mais j'y renonçais du reste. Depuis trop longtemps, il les lanternait. Et il ne voulait plus de sa personne ni de son travail. Ces messieurs avaient tort. Le dommage n'était pas si grand. Avant 3 semaines, tout serait fini. Et Gorju les accompagna jusque dans la cuisine où Germaine, en se traînant, arrivait pour faire le dîner. Ils remarquèrent sur la table une bouteille de calvados aux 3/4 vidée.
« Sans doute par vous !» dit Pécuchet à Gorju. « Moi ? Jamais !»
Bouvard objecta. « Vous étiez le seul homme dans la maison.
Eh bien, les femmes, repartit l'ouvrier, avec un clin d'œil oblique. »
Germaine le surprit.
« Dites plutôt que c'est moi. Certainement, c'est vous. » Et c'est moi, peut-être, qui ai démoli l'armoire. »
Gorju fit une pirouette. « Voyez donc pas, qu'elle est saoule. » Alors ils se chamaillèrent violemment, lui pâle gouailleur, elle empourprée et arrachant ses touffes de cheveux gris sous son bonnet de coton. Madame Bordin parlait pour Germaine, Mélie pour Gorju. La vieille éclata.
« Si c'est pas une abomination, vous passiez des journées ensemble dans le bosquet, sans compter la nuit, espèce de parisien, mangeur de bourgeoises, qui vient chez nos maîtres pour leur faire accroire des farces. »
Les prunelles de Bouvard s'écarquillèrent.
« Quelle farce ! Je dis qu'on se fiche de vous !»«
On ne se fiche pas de moi !» s'écria Pécuchet. Et indigné de son insolence, exaspéré par les déboires, il la chassa. Qu'elle eût à déguerpir. Bouvard ne s'opposa point à cette décision. Ils se retirèrent, laissant Germaine pousser des sanglots sur son malheur, tandis que Madame Bordin tâchait de la consoler. Le soir, quand ils furent calmes, ils reprirent ces événements, se demandèrent qui avait bu le calvados, comment le meuble s'était brisé, que réclamait Madame Castillon en appelant Gorju, et s'il avait déshonoré Mélie. « Nous ne savons pas, dit Bouvard, ce qui se passe dans notre ménage, et nous prétendons découvrir quels étaient les cheveux et les amours du duc d'Angoulême. » Pécuchet ajouta. « Combien de questions, autrement considérables et encore plus difficiles, d'où ils conclurent que les faits extérieurs ne sont pas tout. Il faut les compléter par la psychologie. Sans l'imagination, l'histoire est défectueuse. Faisons venir quelques romans historiques. »